Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Astérix aux Jeux Olympiques est le 12e album de la série Astérix, scénarisé par René Goscinny et dessiné par Albert Uderzo. Prépublié dans Pilote, puis paru en album en 1968, il transpose les héros gaulois dans la Grèce antique, au moment des Jeux Olympiques. Le point de départ est simple, les habitants du village découvrent que les soldats romains du camp d'Aquarium s'entraînent pour représenter Rome. Soucieux de ne pas laisser leurs adversaires revendiquer seuls le prestige sportif, ils décident de concourir à leur tour. L'album est une bande dessinée d'aventures comiques, mais son propos dépasse la succession d'épreuves. Il examine les contradictions du sport organisé. Les usages politiques de la victoire, la définition fluctuante de l'identité collective et la frontière entre avantages légitimes et tricherie. Goscinny exploite les règles antiques et les anachronismes modernes pour construire une satire accessible. Uderzo donne à cette compétition internationale une ampleur visuelle qui soutient constamment le rythme des gags. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les Jeux Olympiques comme terrain de rivalité entre villages gaulois et empire romain. L'album ne présente pas la compétition comme un simple loisir, elle devient immédiatement un prolongement symbolique de la lutte entre le village irréductible et Rome. Les Gaulois veulent participer parce que les légionnaires du camp voisin espèrent porter les couleurs romaines aux Jeux. Cette motivation met en lumière un mécanisme central de la série. Chaque institution extérieure, militaire, administrative ou sportive, est susceptible de devenir un espace où les petits résistent à une puissance qui se croit naturellement dominante. La question de la représentation nationale est traitée avec ironie. Dans un monde soumis aux conquêtes romaines, l'appartenance politique peut être invoquée de façon opportuniste selon les intérêts des concurrents. Les héros utilisent ainsi le statut de territoire occupé pour revendiquer une place dans une manifestation qui n'est pas conçue pour eux. Le récit ne cherche pas à reconstituer fidèlement l'Antiquité grecque. Il s'appuie plutôt sur le cadre olympique pour montrer l'absurdité des prétentions impériales et des fiertés collectives. Rome veut transformer la victoire en preuve de supériorité tandis que les Gaulois refusent d'être humiliés. Cette opposition fournit un enjeu clair. Tout en évitant le patriotisme solennel, les personnages restent guidés par leur caractère, leur susceptibilité et leur goût de la fête. La compétition révèle donc moins des vertus nationales qu'elle ne grossit les vanités de chacun. Deuxièmement, la potion magique face à la règle sportive et à la question du dopage. Le principal ressort intellectuel de l'album réside dans l'incompatibilité entre la potion magique et une épreuve sportive censée reposer sur l'égalité des concurrents. Dans les aventures ordinaires, la potion de Panoramix est le moyen légitime par lequel le village préserve sa liberté contre les armées romaines. Au jeu, elle change de statut. Son efficacité exceptionnelle s'apparente à un avantage artificiel et ne peut plus être utilisée sans vider la compétition de son sens. Cette transposition comique anticipe très directement les débats contemporains sur le dopage, sans les traiter sous une forme didactique. Goscinny ne réduit pas le problème à une interdiction administrative. Il montre que la performance n'a de valeur que si les participants acceptent une règle commune et si le résultat peut être reconnu par les autres. Astérix doit donc envisager de concourir sans son recours habituel à la force, tandis que Obélix pose un cas encore plus paradoxal en raison de sa force permanente. L'album tire de cette contrainte une part importante de son humour, car les héros sont privés de la solution qui résout normalement tous les affrontements. Mais cette limite structure aussi le récit, elle oblige à distinguer puissance, mérite et victoire officielle. Le sport devient intéressant précisément parce qu'il impose aux Gaulois une discipline qu'ils n'ont pas choisie. Troisièmement, une satire du culte de la performance et des comportements de compétiteurs, Astérix aux Jeux Olympiques observe la compétition avec une méfiance amusée. Les athlètes, les accompagnateurs et les autorités ne sont pas idéalisés, chacun peut être préoccupé par le prestige, l'apparence ou la conquête d'une récompense. La préparation des Romains, qui transforme les soldats en sportifs appliqués, détourne déjà la logique militaire vers une autre forme de démonstration collective. Les efforts physiques, les régimes et les stratégies de victoire sont traités comme autant de comportements excessifs. Le livre met ainsi en contraste l'idéal affiché des Jeux, fondé sur la confrontation réglée, et les passions très ordinaires qu'il suscite. La volonté de gagner peut rapidement conduire à chercher une solution qui contourne l'esprit de l'épreuve. Cette critique reste légère parce que les personnages ne deviennent jamais des symboles abstraits. Leurs défauts se manifestent dans des situations concrètes, dans des réactions de mauvaise foi et dans le décalage entre leur assurance initiale et les contraintes rencontrées. La satire vise également le public et les organisateurs, dont les règles peuvent sembler rigides ou arbitraires lorsqu'elles touchent les héros. Pourtant, l'album ne conclut pas que toute règle est vaine. il suggère plutôt que l'enthousiasme sportif ne mérite d'être célébré que lorsqu'il n'est pas entièrement confisqué par la vanité ou la tricherie. Le rire naît de cette tension persistante entre l'idéal du fair-play et le désir universel de triompher. Quatrièmement, le voyage en Grèce comme parodie érudite de l'Antiquité et du monde moderne, comme plusieurs albums de la série. Celui-ci construit son efficacité sur un double regard historique et contemporain. L'Olympie antique offre un décor immédiatement reconnaissable avec ses délégations, ses épreuves, ses juges et son prestige panhellénique. Toutefois, Goscinny ne prétend pas livrer une leçon d'archéologie. Il sélectionne des éléments historiques pour les faire résonner avec les habitudes du sport moderne, entraînement intensif, compétition internationale, obsession des résultats, règlements et soupçons de produits améliorant les performances. Les anachronismes ne sont pas de simples clins d'œil. Ils permettent au lecteur de reconnaître dans l'antiquité des pratiques qui lui sont familières et de mesurer leur caractère parfois absurde. La Grèce devient ainsi un espace de dépaysement et un miroir du présent. Le dessin du Derzo joue un rôle décisif dans cette opération. Les architectures, les foules et les athlètes donnent au séjour une dimension monumentale, tandis que les expressions et les détails de second plan empêchent toute grandeur de devenir solennelle. Cette alliance entre documentation stylisée et caricature distingue l'album d'une fiction historique classique. Le passé y est traité comme une matière vivante, disponible pour la satire. Le lecteur peut apprécier les références antiques sans devoir les connaître précisément. Car l'intrigue reste portée par les objectifs très concrets des Gaulois et par leur confrontation avec les règles du lieu. En dernier lieu, un récit collectif où la contrainte révèle les caractères d'Astérix et Obélix, et l'album se distingue par la manière dont il redistribue les rôles habituels du duo. Astérix est souvent celui qui transforme une difficulté en plan d'action. Mais le cadre olympique limite son avantage le plus sûr et le place devant des règles qu'il ne peut pas simplement renverser. Sa vivacité d'esprit demeure importante, mais elle ne dispense plus d'accepter les conditions de la compétition. Obélix, à l'inverse, incarne une force spontanée qui paraît parfaitement adaptée aux épreuves physiques, tout en devenant problématique dès lors que cette force est liée à la potion reçue dans l'enfance. Le contraste entre les deux personnages produit des situations comiques, tout en posant une question cohérente: peut-on concourir équitablement lorsque les capacités naturelles ou acquises sont radicalement inégales? Autour d'eux, les villageois participent à l'énergie collective de l'expédition. Leur présence rappelle que la quête de victoire dépasse les ambitions individuelles et engage l'honneur supposé du groupe. Pourtant, personne ne se transforme en héros exemplaire. Les Gaulois restent bruyants, impatients et volontiers moqueurs. Cette fidélité au caractère connu évite que le thème sportif impose une morale lourde. La contrainte olympique sert surtout à renouveler les relations du duo et à démontrer que la solidarité du village tient moins à une discipline parfaite qu'à une loyauté durable, dans l'adversité et dans le ridicule. En conclusion, Astérix aux Jeux Olympiques s'adresse d'abord aux lecteurs qui souhaitent découvrir un album classique de la période Goscinny et Uderzo. Mais il convient également à ceux qui s'intéressent à la représentation du sport dans la bande dessinée. Les lecteurs plus jeunes y trouveront une aventure rapide, des personnages immédiatement lisibles et un humour visuel abondant. Les adultes peuvent y relever une satire précise de la compétition, de la propagande de prestige et du dopage, thème qui conserve une forte actualité. L'intérêt pratique de l'album est moins d'enseigner l'histoire exacte des Jeux antiques que de fournir une entrée plaisante vers les questions de règles, d'équité et de représentation collective. Il peut ainsi nourrir une discussion sur ce qui rend un résultat sportif crédible et sur les tensions entre spectacle, ambition et fair-play, par rapport à beaucoup de bandes dessinées d'aventures historiques. L'album se démarque par sa capacité à faire coexister un décor antique identifiable et une observation très moderne des comportements. Il ne transforme ni la Grèce ni le sport en objet de révérence. Chaque élément historique devient un support de décalage comique, sans perdre sa fonction narrative. Par rapport à d'autres albums de la série, La Potion Magique y est surtout une contrainte morale et réglementaire plutôt qu'un instrument de libération immédiate. Ce renversement donne au récit une architecture particulièrement solide. Il explique pourquoi cette aventure demeure une lecture accessible, drôle et intellectuellement plus riche que son apparente légèreté ne le laisse croire. Si vous souhaitez soutenir René Goscinny, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.